Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages sur Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau André Gardy. Bonjour André Gardy.
Bonjour Christian.
Et nous sommes heureux de vous accueillir. Vous étiez venu, je crois, il y a 2 ans.
Oui, pour La promesse de la mer.
La promesse de la mer. Un livre qui, dans la présentation qui est faite dans ce livre-là, de promesse de la mer, vous parlez de au bord de la Méditerranée, mais pour bien des Nîmois et des gens de par ici, c'est très clair, c'était au Gros du Roi.
C'était le Gros du Roi, bien sûr.
Et aujourd'hui, vous êtes venu avec un nouvel ouvrage, Le temps des pluies venues de l'océan. Alors là, c'est le rapport avec le premier, c'est la mer.
C'est plus la Méditerranée, c'est l'océan.
C'est l'océan. Et avec une couverture, quelqu'un sous un parapluie, on essaiera de savoir la raison de cela. C'est peut-être important de rappeler un peu votre parcours, parce que vous étiez plutôt dans le cinéma, je crois.
Oui, disons, pour faire vite, j'ai deux vies. Une première vie professionnelle, cette fois-ci, où j'ai été professeur de lettres d'abord, puis professeur d'études cinématographiques, oui. En particulier à Strasbourg dans un premier temps, puis ensuite à Lyon 2, à l'université de Lyon 2, où j'ai fini ma carrière. Oui. Et puis ensuite, quand j'ai été à la retraite, je me suis mis totalement à l'écriture de fiction.
Oui. Et vous écrivez depuis, je crois, enfin en tout cas d'après ce qu'on voit ici, 2014, vous publiez depuis 2014 des romans, des...
2002. Premier c'est Derrière les ponts, il est même sorti en 2001. Alors, est-ce que c'est vraiment un roman? En tous les cas, c'est un ouvrage de fiction.
Oui.
Bon, c'est pas vraiment un roman parce qu'il n'est pas construit comme un roman, oui. Mais je le considère comme tel. Et puis, il est lié à mes souvenirs nîmois, puisque mon enfance a été totalement nîmoise.
Oui, et Derrière les ponts, c'est les ponts de Nîmes.
Voilà.
les lecteurs le comprennent en lisant le livre.
Je crois, parce que je le précise quand même. Oui.
Il faut aussi préciser que vous avez, pour un de vos romans, vous avez obtenu un prix. C'est quel prix, c'est déjà...
Le prix Lucien Gachon. Alors, c'est un prix qui n'est pas connu, pas très connu, mais qui est intéressant parce que c'est un prix de public. C'est le public, les lecteurs et lectrices des médiathèques d'Auvergne.
Oui.
Le livre circule de médiathèques. Enfin, il y a celles qui l'ont aussi. Et il y a un jury, il y a une présélection. Et ce sont les lecteurs qui font leur choix dans cette présélection.
C'est une région que vous aimez, ce sud du Massif central. D'ailleurs, quand on regarde les titres, une ou deux fois, on voit le mot Cévennes qui arrive. Vous êtes Cévenol.
Alors, je ne suis pas vraiment Cévenol. Je serais plutôt Lozérien, et y compris la partie Cévenol qui est en Lozère, bien sûr, parce que du côté de ma mère adoptive, je suis totalement lozérien du nord de la Lozère, la Margeride, j'ai une résidence secondaire là-bas depuis plus de 60 ans, donc je me considère comme moitié sud-est et moitié hauteur Cévenol, ou disons du Massif central.
Oui. Mais écoutez, en tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir pour ce livre. On reviendra peut-être sur d'autres ouvrages éventuellement dans le cours de la conversation. Et on est un peu surpris par ce titre, Temps des pluies venues de l'océan, par cette couverture. Et ça commence au Canada. Vous connaissez le Canada, vous y avez vécu ?
J'y ai vécu. Vécu, c'est beaucoup dire. J'ai fait 2 séjours d'un trimestre, plus de 3 ou 4 visites plus ponctuelles. Oui. Mais j'ai travaillé à 2 reprises à l'université Laval au Québec.
Oui.
À Québec et au Québec.
Oui. Oui, on voit effectivement les allusions à ces régions au bord du Saint-Laurent.
Exactement.
Disons, tout à fait intéressant. Parler d'un roman, ce n'est pas facile parce qu'il ne faut pas en divulguer le contenu avec précision. mais on peut dire qu'il se présente déjà comme une sorte d'autobiographie.
Il y a des éléments autobiographiques dans ce livre, c'est incontestable.
Oui, mais je veux dire, il se présente, c'est jeu qui c'est, dès le départ, c'est jeu.
Oui,
donc,
bien sûr. Oui.
Ça se présente comme une autobiographie.
Le personnage central parle en son nom, oui. Mais c'est le personnage.
Oui, c'est le
pas
personnage,
forcément l'auteur.
On comprend bien, c'est pas... c'est... Et alors, c'est assez drôle parce qu'effectivement, on parle de là-bas. Est-ce que c'est là ? C'est pour ça que vous parlez de la pluie ?
Non, la pluie, elle est venue plutôt du côté de Niort, qui a été la première, comment dire, expatriation du personnage central, puisqu'il est affecté à Niort. Pour question de travail, il est prof, il est affecté là-bas. Et c'est là qu'il va découvrir la pluie.
Oui.
Parce qu'après avoir passé plus de 20 ans dans le Midi, il découvre de manière à sa déprime, il découvre la pluie à peu près continue. En tous les cas, c'est l'impression qu'il avait, puisque... c'est un élément d'autobiographie, donc oui. Je peux le citer. C'est vrai que quand je suis arrivé à la rentrée des vacances de Toussaint, parce que j'avais été affecté en dehors du mouvement, bon, peu importe ces détails, j'arrive à Niort début novembre, il y avait la pluie, et j'ai eu l'impression de revoir le soleil au mois de juin.
Oui.
Bon, c'est un peu exagéré. Hein. Si les Niortais m'entendent, ils ne vont pas être contents.
autre élément qui est intéressant, bon, on a parlé des Cévennes, on a parlé du Midi, on a parlé de Nîmes, puisque vous êtes l'auteur de Sous les ponts. Pour les Nîmois aussi, c'est très clair. L'action commence et se termine au bord du Gardon.
C'est vrai. C'est vrai que l'action proprement dite, elle est là. Oui, c'est vrai.
Et tous les Nîmois pourraient repérer ce lieu.
Je ne sais pas.
Presque.
Presque, parce que je ne voulais pas le donner de manière très précise. d'autant plus que maintenant, l'endroit où on garait.
Oui.
Est complètement fermé,
oui.
Donc on ne peut plus y aller.
Enfin, on a des repères.
Oui, bien sûr, pour Saint-Nicolas. Et...
Ce qui est moins repérable, c'est les rapports entre le personnage, donc l'auteur, celui qui raconte sa vie dans ce livre, qui parle d'emblée à sa petite-fille. Et sa petite-fille est au Portugal, je crois.
Oui.
Et lui est au Canada, et au Québec, et sa petite-fille est au Portugal. Et on ne saisit pas tout de suite. Alors, c'est l'intérêt de la chose, c'est qu'on le découvre beaucoup plus tard, vers la fin du...
Voilà, on comprend pourquoi il est au Québec après, effectivement. Oui, tout simplement, il y avait plusieurs choses. En particulier le fait que j'ai fait la petite fille du narrateur se trouver au Portugal avec sa grand-mère qui l'a rejointe. C'était pour moi j'aurais pu imaginer, ou le narrateur pouvait imaginer qu'elle restait en France, ça ne changeait pas fondamentalement les choses. Mais pour moi c'était important parce qu'il me semble que la génération de la petite fille, dont la génération en gros des 20-30 ans aujourd'hui, a continué l'expatriation. Moi-même, je suis d'une des premières générations à avoir quitté ma région natale pour d'autres régions de la France. Donc c'était une forme d'expatriation. Et je me suis aperçu que cette expatriation, elle s'est développée. Je vois dans le village où je suis, je connais au moins deux enfants de gens qui sont dans le village, qui sont partis en Corée, qui sont partis l'autre, je ne me souviens plus, mais enfin du côté de l'Asie. Et donc là, j'étais très surpris. Et je me suis rendu compte en bavardant, en échangeant, que j'allais dire la génération actuelle, pas toute la génération bien sûr, mais ceux qui ont généralement fait des études, qui veulent exploiter au mieux leur diplôme, vont s'expatrier à l'étranger. Pour ça que j'avais j'avais choisi de faire en sorte que la petite fille du narrateur soit elle-même expatriée.
Alors on part donc du Québec, on a un peu accès au Portugal, et puis le personnage, effectivement, il se promène beaucoup, enfin il se promène beaucoup, il se déplace beaucoup en France. Il commence effectivement dans l'ouest de la France, vous parliez de Niort, on le voit à un moment donné à Orléans, on le voit, voilà. Et y compris Besançon finalement, voilà. c'est tout un parcours, et les lecteurs là peuvent se... Enfin, on est assez à l'aise parce qu'on a l'impression de découvrir un peu ces cités.
Ah ben, tant mieux, parce que il me semblait que y avait des éléments que je voulais évoquer à travers cela. Bon, par exemple, Niort, le Niort que le narrateur a connu, en l'occurrence que j'ai connu, c'est une ville qui a totalement changé. C'était déjà la ville de la Maeve des assurances. Oui. C'est toujours la ville des assurances. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est que dans les années où je l'ai connue, c'est-à-dire au milieu des années 60, c'était une ville qui avait des fondations agricoles, paysannes. Oui. Où il y avait quelques industries, notamment une industrie de transformation du bois. Il y avait des coopératives, beaucoup de coopératives, mais ça faisait un monde, vous voyez, pauvre et qui complétait ses revenus par le travail à la ferme. Donc c'était en général des ouvriers paysans, une bonne partie étaient ouvriers paysans, qui était une caractéristique de cette époque-là.
Oui. Oui, je disais que les lecteurs se découvrent un peu de ces régions. Mais votre livre, dans le fond, c'est un parcours depuis Nîmes, depuis la région de Nîmes, vers l'ouest, vers le centre-nord, et puis vers l'est de la France. Mais c'est aussi le parcours d'une vie de la jeunesse vers l'âge adulte.
Exactement. Je n'ose pas dire semé d'embûches, mais disons semé de mutations, oui. De mouvements extrêmement importants. Il y a eu au milieu de cela, évidemment, mai 68. Oui. Et mai 68 a entraîné passablement de transformations dans la société. De manière de vivre, de conception de la vie. Oui. Et c'est de cela essentiellement dont le livre parle,
oui,
je crois.
Tout à fait, oui. On le sent bien. Vous avez, au départ, vous aviez un peu cette intention de quelque sorte de léguer au lecteur un peu un bout d'histoire.
Exactement. Oui. Là, je crois que c'est bien, de mon point de vue, bien vu, parce que c'est parti d'une idée très simple. C'est parti de discussions, d'échanges avec des jeunes générations. C'est parti d'une part de ça, c'est parti d'une observation toute simple. Quand on regarde la conception du couple aujourd'hui,
oui.
Qui n'a plus rien à voir avec celle sous l'égide de laquelle j'ai pu vivre. Ma génération a vécu sous l'égide du mariage pour la vie, à base de fidélité pour l'essentiel, et on épousait quelqu'un pour la vie.
Oui.
Aujourd'hui, cette conception-là existe encore, bien sûr,
oui.
Mais elle est battue en brèche par quantité d'autres options possibles, que ce soit le Pax, d'ailleurs, en a été la forme juridique qui a été créée, mais il y a ce qu'on appelait de mon temps le concubinage, et il y a des conceptions de relations de couple qui sont complètement différentes. Qui vont du couple fidèle, traditionnel, comme j'ai pu le connaître, comme ma génération a pu le connaître, mais qui va jusqu'à des conceptions beaucoup plus ouvertes, ce qu'on appelle le polyamour, par exemple. Donc, en discutant avec un certain nombre de jeunes de cette génération-là, je me suis rendu compte de cela. Et je me suis dit, mais ce qui est apparu en 68, très fortement, et un peu avant 68, et après, c'est-à-dire que 68 a été au cœur de cela, pour la France en tous les cas, c'est l'idée que que le corps des femmes appartenait aux femmes. D'abord, oui. Ça, c'était une sacrée transformation. Hein. Oui. La pilule avec la loi Veil est venue quand même en 75, quelques années après. Mais c'est la conséquence aussi de 68. Oui. Et il y avait, en même temps que cela, il y avait aux États-Unis, qui est venu en France, le mouvement hippie. Oui. Et le mouvement hippie, il faut rappeler qu'un des grands proverbes à l'époque, c'était « faites l'amour, pas la guerre », oui. Puisque c'était en réaction contre la guerre du Vietnam. Et donc, ce « faire l'amour » et non pas la guerre, ça supposait effectivement déjà une attitude qui est celle qu'on retrouve dans le polyamour aujourd'hui. Oui. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui peut-être naissait déjà en 68 et qui s'est développé, qui apparaît aujourd'hui. Voilà, merci. C'était peut-être de ce point de vue-là ce qui m'intéressait dans ce retour en arrière.
Oui, tout à fait. Et les études, l'évolution des études, les contacts aussi, la découverte de personnages, de personnes auxquelles on n'est pas habitué. On voit apparaître un certain nombre d'étrangers.
Bien sûr.
Qui sont... et qu'on ne voyait pas...
Ah oui, complètement, oui, voilà. Complètement. Là, il y a eu un brassage social qui est extrêmement important. Et ce brassage est un brassage social, dans ce sens qu'il modifie les rapports à l'intérieur de la société, mais il a aussi des conséquences au niveau de l'intime, au niveau des couples, des individus.
Tout à fait, oui. On va faire une petite pause, si vous voulez, avec une musique que vous avez choisie.
Oui, Los Chacos, et je l'ai choisi pour rendre hommage à un de mes amis très très proche, quelqu'un d'une immense culture, qui était prof de philo, qui était prof de cinéma, qui a été musicien professionnel, qui appartenait au groupe Los Chacos, qui a eu son heure de gloire dans les années 70, et qui était spécialisé dans la musique des Andes.
Radio Alliance Plus, 103.2 à Nîmes, en FM, mais aussi en DAB+, ou bien par Internet. Nous sommes dans l'émission Au fil des pages, avec André Gardy, qui est un Nîmois, et qui habite tout près de Nîmes, et qui vient nous présenter son dernier ouvrage, Le temps des pluies venues de l'océan, André Gardier était déjà passé au studio de Radio Alliance Plus pour présenter un autre livre plutôt autour du Gros du Roi. Alors André, vous venez nous expliquer un peu ce que vous aviez dans la tête en écrivant ce livre qui, je le disais, se présente sous forme d'une autobiographie de quelqu'un, pas la vôtre, mais même s'il y a peut-être des éléments de votre vie qui sont dans le film, dans le livre, ce que vous vouliez montrer, c'est l'évolution des mœurs, l'évolution des habitudes dans cette période de 68 que vous avez vous-même traversée.
Que j'ai traversée, bien sûr. Et
voilà. Avec des références géographiques, on est au Canada, on est au Portugal, on parle un petit peu du Portugal, mais le Canada, on en parle bien. Et puis de diverses régions de France, l'Ouest, le Centre, Orléans, et jusqu'à Besançon, et puis bien sûr le Midi, les bords du Gardon, le Vallon-Pont-d'Arc, etc. Voilà, pour les gens de la région, on n'est pas perdu du tout.
Je ne pense pas.
Mais on découvre effectivement, pour les jeunes, les lecteurs plus jeunes, découvriront effectivement l'évolution ou les évolutions qui ont eu lieu dans cette...
Je pense, enfin c'est un petit peu ce que j'espère, oui, aussi, bien sûr. Oui, oui. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, lorsque j'ai quelques retours de lectrices ou de lecteurs, j'aime bien avoir... des points de vue générationnels, oui, différents. Et c'est vrai que les points de vue sont différents, suivant les générations.
Oui. Est-ce que le... Pardon. Est-ce que le professeur de cinéma que vous étiez dans la première partie de votre vie, est-ce que le cinéma apparaît là-dedans? Dans quelle mesure il apparaît dans le film? Dans le livre.
Là, il apparaît beaucoup moins. Par exemple, dans, oui, La promesse de la mer, il était au centre, oui, puisque mon personnage principal était un réalisateur de documentaires. Oui. Là, il apparaît beaucoup moins parce que les nécessités, si vous voulez, de la fiction que j'avais mise, oui, en place ne l'appelaient pas particulièrement.
Peut-être dans les descriptions.
Alors, dans la manière d'écrire, oui, peut-être.
Dans la manière
d'écrire. On m'a souvent dit cela, effectivement. Oui. Effectivement, au niveau des descriptions, une sorte de... J'aime bien les descriptions. Elles me paraissent indispensables quand j'écris. Alors, est-ce que ça devient un tic d'écriture? Je ne le sais pas. Mais ça me paraît généralement tout à fait essentiel à la compréhension du récit, oui, et à l'évocation. Des paysages, je ne sais pas, par exemple, quand mon personnage arrive à Orléans, il se trouve qu'il n'est pas à Orléans, la vieille ville,
oui,
il était à Orléans-la-Source, qui à l'époque était une ville neuve, ce qu'on appelait les villes neuves, comme, oui, il y en a eu à Cergy-Pontoise, comme il y en a eu un peu partout. Et ces villes neuves étaient peuplées de gens qui n'étaient pas de la région. La plupart du temps, ils venaient des quatre coins de la France. Hein. Et ça créait... Alors, déjà, au niveau de l'architecture, on avait quelque chose de tout à fait différent, évidemment, des vieux centres de, oui, ville. Mais en même temps, dans la population, c'était totalement différent. Et ça me paraissait intéressant. Il me semble aussi que j'ai essayé d'en rendre un petit peu compte dans ma manière de décrire certains éléments.
Ça se remarque, effectivement. On voit tout de suite la situation, ouais, que ce soit les appartements ou des déambulent les personnages ou les villes.
Ah oui, tout à fait. En tout cas, j'ai essayé d'aller dans ce sens-là.
Oui, oui. Est-ce que vous avez des projets, là, vous êtes en train d'écrire encore?
Alors, j'en ai terminé un autre.
Ah.
J'ai même, là, c'est pas mal avancé, puisque j'ai signé le contrat avec un éditeur, et il devra être dans les librairies le 12 février, très précisément.
Bon, alors, on pourra prendre rendez-vous.
Parce que c'est le diffuseur qui va fixer les dates,
oui,
et le diffuseur va se charger de la commercialisation, et pour ça, il a besoin de temps, donc il faudra attendre le mois de février 2026.
Alors j'en profite, puisque vous parlez d'éditeur, je vois qu'il est publié aux nouvelles éditions Noir au Blanc. Je ne connaissais pas cet éditeur.
Alors, il n'est pas très connu, d'abord parce que noir, blanc, ça a été utilisé comme intitulé. Il y a notamment un éditeur qui s'appelle Noir sur Blanc. Mm-hmm. Il y en a un qui s'appelle Noir et Blanc. Et il y en a un qui s'appelle Noir au Blanc. Donc, lui n'est pas très connu. Il est installé de l'autre côté du Rhône.
Oui.
C'est une équipe, ils sont deux. Et comme ils l'indiquent sur leur site, ils éditent ce qu'ils aiment.
Oui, voilà. C'est bien.
Donc, il n'y a pas une ligne éditoriale particulière, mais c'est en fonction de leur goût à eux.
Une nouvelle édition noire au blanc à Sarrian, dans le Vaucluse, donc, et la date de publication, mai 2025. Ouais. Un ouvrage encore tout récent.
Voilà, et ce qui me paraît qu'on peut signaler de chez cet éditeur, c'est un éditeur traditionnel, c'est-à-dire qu'il fait appel à un imprimeur pour constituer des stocks, et non pas faire comme ça devient le cas aujourd'hui, c'est extrêmement répandu, où on va faire du tirage à la demande, donc il n'y a pas de stock. Ça permet effectivement des économies d'une certaine manière. En même temps, je crois que quand on fait des stocks, l'éditeur doit être plus attentif à ce qu'il édite, puisque effectivement, il faut qu'il avance un certain nombre de fonds.
Oui. Et certains de vos livres ont été réédités.
Il y en a en particulier Les années de cendre qui a été réédité. Derrière les ponts a été réédité.
Oui.
Les années de cendre a été réédité. Le monde de Juliette.
Avec le monde de Juliette, et ils ont été associés.
Et ça, c'était avant celui-ci. Il y a eu cette réédition en un seul volume. Pour ce volume, d'ailleurs, j'avais insisté auprès de l'éditeur pour avoir quelque chose. Il a la particularité, ce livre, d'être tête bêche. Vous prenez, par exemple, vous commencez par les années de cendre, quand vous l'avez fini, vous le retournez et vous avez de l'autre côté le monde de Juliette. Voilà. Et tout simplement parce que là, ça raconte, disons qu'il y a la même thématique. Dans un cas, c'est le portrait de ma mère biologique, que je n'ai jamais connue, et dans l'autre, le portrait de ma mère adoptive. Et comme je ne voulais pas choisir entre les deux mères, je laisse le soin au lecteur de le faire.
Écoutez, on regardera ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce livre-là, Le temps des pluies venues de l'océan. Et je crois que les lectrices et lecteurs apprécieront ce retour un peu, ce retour en arrière et en même temps ce voyage que vous leur faites faire et les découvertes que vous leur apportez. Et donc vous êtes le bienvenu dès le mois de février, mars.
Ça sera à nouveau avec plaisir, Christian. Ouais.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus dans l'émission Au fil des pages. Nous étions avec André Gardy. Merci André et bon
retour. Merci Christian de m'avoir invité, c'est très gentil. Ouais.